le vent terrible qui menaçait d'éventrer la maison. Que de fois, dans cette dernière journée, ils allèrent jusqu'à la fenêtre, attirés par la tempête, souhaitant qu'elle emportât le monde. Pendant ces coups de mistral, le soleil ne cesse pas de luire, le ciel reste constamment bleu. Mais c'est un ciel d'un bleu livide, trouble de poussière. Et le soleil jaune et pâli d'un frisson. Ils regardaient au loin les immenses fumées blanches qui s'envolaient des routes, les arbres pliés et chevelés, ayant tous l'air de fuir dans le même sens, du même train de galop. La campagne entière desséchée, épuisée sous la violence de ce souffle toujours égal, roulant sans fin avec son grondement de foudre. Des branches cassaient, disparaissaient, des toitures étaient soulevées, charriées si loin qu'on ne les retrouvait plus. Pourquoi le mistral ne les prenait-il pas ensemble, les jetant là-bas, aux pays inconnus où l'on est heureux? Les malles allaient être faites lorsqu'il voulut rouvrir un volet que le vent venait de rabattre. Mais par la fenêtre entrebâillée, ce fut un tel engouffrement qu'elle dut accourir à son secours. Ils pesèrent de tout leur poids. Ils purent enfin tourner l'espagnolette. Dans la chambre, les derniers chiffons s'étaient débandés et ils ramassèrent, en morceaux, un petit miroir à main tombé d'une chaise. Était-ce donc un signe de mort prochaine, comme le disaient les femmes du faubourg? Le soir, après un morne dîner dans la salle à manger claire, au grand bouquet fleuri, Pascal parla de se coucher de bonne heure. Clotilde devait partir le lendemain matin, par le train de 10h15, et il s'inquiétait pour elle de la longueur du voyage, 20 heures de chemin de fer. Puis, au moment de se mettre au lit, il l'embrassa. Il s'obstina, dès cette nuit même, à coucher seul, à aller reprendre sa chambre. Il voulait absolument, disait-il, qu'elle se reposât. S'ils restaient ensemble, ni l'un ni l'autre ne fermerait les paupières. Ce serait une nuit blanche, infiniment triste. Vainement, elle le supplia de ses grands yeux tendres. Elle lui tendit ses bras divins. Il eut l'extraordinaire force de s'en aller, de lui mettre des baisers sur les yeux, comme à une enfant, en la bordant dans ses couvertures et en lui recommandant d'être bien raisonnable, de bien dormir. La séparation n'était-elle pas consommée déjà? Cela l'aurait empli de remords et de honte s'il l'avait possédée encore lorsqu'elle n'était plus à lui. Mais quelle rentrée affreuse dans cette chambre humide, abandonnée, où la couche froide de son célibat l'attendait. Il lui sembla rentrer dans sa vieillesse, qui retombait à jamais sur lui, pareil à un couvercle de plomb. D'abord, il accusa le vent de son insomnie. La maison morte s'emplissait de hurlements, des voix implorantes et des voix de colère se mêlaient au milieu de sanglots continus. Deux fois, il se releva, alla écouter chez Clotilde, n'entendit rien. En bas, il descendit fermer une porte qui tapait avec des coups sourds, comme si le malheur eût frappé au mur. Des souffles traversaient les pièces noires. Il se recoucha, glacé, frissonnant, hanté de visions lugubres. Puis, il eut conscience que cette grande voix dont il souffrait, qui lui ôtait le sommeil, ne venait pas du mistral déchaîné. C'était l'appel de Clotilde, la sensation qu'elle était encore là et qu'il s'était privé d'elle. Alors, il roula dans une crise de désir éperdu, d'abominable désespoir. Mon Dieu, ne plus la voir jamais à lui, lorsqu'il pouvait d'un mot la voir encore, la voir toujours. C'était un arrachement de sa propre chair, cette chair jeune qu'on lui enlevait. À 30 ans, une femme se retrouve. Mais quel effort, dans la passion de sa virilité finissante, pour remonter à ce corps frais, sentant bon la jeunesse, qui s'était royalement donnée, qui lui appartenait comme son bien et sa chose. 10 fois, il fut sur le point de sauter du lit et de l'aller reprendre, et de la garder. L'effrayante crise dura jusqu'au jour, au milieu de l'assaut enragé du vent, dont la vieille maison tremblait toute. Il était 6 heures lorsque Martine, ayant cru que son maître l'appelait dans sa chambre, en tapant au parquet, monta. Elle arrivait de l'air vif et exalté qu'elle avait depuis l'avant-veille. Mais elle resta immobile d'inquiétude et de saisissement lorsqu'elle l'aperçut, à demi vêtue, jetée en travers de son lit, ravagée, mordant son oreiller pour étouffer ses sanglots. Il avait voulu se lever, s'habiller tout de suite, et un nouvel accès venait de l'abattre, pris de vertige, étouffé par des palpitations. Il était à peine sorti d'une courte syncope qu'il recommença à bégayer sa torture. « Non, non, je ne peux pas. Je souffre trop. J'aime mieux mourir, mourir maintenant. » Pourtant, il reconnut Martine et il s'abandonna. Il se confessa devant elle à bout de force, noyé et roulé dans la douleur. « Ma pauvre fille, je souffre trop, mon cœur éclate. C'est elle qui emporte mon cœur, qui emporte tout mon être, et je ne peux plus vivre sans elle. J'ai failli mourir cette nuit. Je voudrais mourir avant son départ pour ne pas avoir ce déchirement de la voir me quitter. Oh, mon Dieu, elle part, et je ne l'aurai plus, et je reste seule, seule, seule. » La servante, si gaie en montant, était devenue d'une pâleur de cire, le visage dur et douloureux. Un instant, elle le regarda arracher les draps de ses mains crispées, râler son désespoir, la bouche collée à la couverture. Puis, elle parut se décider d'un brusque effort. « Mais, monsieur, il n'y a pas de bon sens à se faire un chagrin pareil. C'est ridicule !» « Puisque c'est comme ça et que vous ne pouvez pas vous passer de mademoiselle, je vais aller lui dire dans quel état vous vous êtes mis. » Violemment, cette phrase le fit se relever, chancelant encore, se retenant au dossier d'une chaise. « Je vous le défends bien, Martine. Avec ça que je vous écouterai, pour vous retrouver à demi-mort, pleurant toutes vos larmes. Non, non, c'est moi qui vais aller chercher mademoiselle et je lui dirai la vérité.